Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de musique dans tous les styles, du classique au déjanté. Également, tous les styles d'intervenants. Vous allez retrouver Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait pré-fame de notre Toulousaine Lisa Marie Marquez, La Ville Rose. Également, Marc-Antoine Lebray et ses voix. Et dans quelques instants, le journal des médias et les audiences télé d'hier soir avec Louise Bernard. Notre infomédia va vous donner des sueurs froides avec l'épopée des renseignements généraux, les RG, au cœur d'un documentaire très documenté qui révèle comment ce service de l'État, officiellement neutre, a infiltré la vie privée des hommes et des femmes politiques et comment il a parfois manipulé l'opinion. Les fake news, les bad buzz ne datent pas d'aujourd'hui. Coluche, Jospin et Nicolas Sarkozy en ont fait les frais. Attendez-vous à des révélations. Et puis nos invités très musicaux là. Pascal Nègre, patron emblématique d'Universal pendant plus de 20 ans, et la chroniqueuse de LCI, Karima Charny. Quel rapport entre les deux? Eh bien, ils ont tous les deux participé à la Starac. Ils se retrouvent dans l'émission Souvenir. En fait, c'est une série de 3, Star Academy. On s'était dit rendez-vous dans 20 ans. Ça commence samedi sur TF1. Et dans une petite vingtaine de minutes ici. Et puis l'humoriste Christelle Cholet pour son livre L'Entubé chez Kero. Là encore, il est question de musique. Elle nous repasse les tubes qu'on a entendus 1000 fois. Résultat, vous n'écouterez plus jamais vos chansons préférées de la même façon. Et c'est hilarant. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Les invités prestigieux de Quotidien mardi prochain, les pactes de l'audiovisuel public avec le ministère de la Culture dans un autre genre, le tout nouveau venu dans Plus belle la vie, et puis vous savez que ce week-end on change d'heure.
Ah mince, non, je savais pas.
Ouais, ah bah samedi voilà, soir, enfin dimanche dans la nuit, France 5 propose un documentaire scientifique passionnant pour comprendre comment le temps est fabriqué, vous verrez. Et puis on finira avec des actus ciné et séries, que des bonnes nouvelles, ça
comment,
vous fait rire.
Oui, parce que je me demande comment on faisait avant que le temps soit fabriqué.
Ah, bah vous verrez.
D'abord les audiences, Louise, qu'ont regardé les Français hier soir?
Ils ont regardé le lancement de la série Germinal. Voilà, je retrouve mes chiffres. 4 410 000 téléspectateurs. Un bon lancement pour cette série. 19,9% de part d'audience. Et il n'y a pas beaucoup de pertes de téléspectateurs entre les deux épisodes. C'est donc bon signe. Deuxième, M6, la France a un incroyable talent qui remonte après un lancement un peu compliqué la semaine dernière. 3 260 000 téléspectateurs. 16,1% de part d'audience. Et puis troisième, la série Good Doctor. C'était le final de la saison 4, 2 850 000 téléspectateurs. Là, c'est en baisse, 12,8% de part d'audience. Et puis, à noter que TMC réalise un très bon score, 1 400 000 téléspectateurs avec les Tuches 3.
Ouais. Good Doctor, c'est quelle chaîne?
C'est TF1, pardon.
Le journal des médias démarre maintenant avec l'émission Quotidien qui va recevoir 2 invités prestigieux mardi prochain.
C'est ce qu'on appelle faire un coup dans cette guerre sans merci que les émissions se livrent pour recevoir les meilleurs invités, notamment les stars internationales. C'est à vous a d'ailleurs reçu Matthew McConaughey mardi soir. La Quotidien met la barre très haut en annonçant recevoir Barack Obama et Bruce Springsteen mardi prochain pour la promotion de leur livre Born in the USA. Ils ne seront pas en plateau, ce sera une interview enregistrée en duplex depuis la maison de Bruce Springsteen.
Bah, rien que ça déjà depuis la maison de Bruce Springsteen. Ouais. Impressionnant. L'audiovisuel public vient de signer des pactes avec le ministère de la Culture.
Un pacte pour la jeunesse d'abord, une manière de s'engager à proposer davantage de contenu pour les jeunes et faire des offres pédagogiques. L'objectif, c'est de conquérir ces nouvelles générations. Et un pacte pour la visibilité des Outre-mer, pour favoriser la présence d'ultramarins dans les programmes et leur conception, selon le ministère de la Culture. Parmi les signataires, France Télévisions, Radio France, France Média Monde, Arte, TV5 Monde et l'INA. Et d'ici 2 ans, toutes ces entreprises devront rendre des comptes en établissant un rapport commun sur l'application de leurs engagements.
Justement sur la diversité, vous aurez peut-être reconnu le générique, c'est Plus belle la vie qui va accueillir un nouvel acteur.
Oui, le nageur paralympique Théo Curin, athlète amputé des 4 membres, il vient de commencer le tournage pour la série marseillaise. Il va jouer le rôle de Hugo, un adolescent décrit comme hyper solaire par la production. L'aîné d'une fratrie de 4 enfants, sa famille revient s'installer dans le quartier du Mistral, le quartier de Plus belle la vie, après 20 ans passés à voyager. Ce ne sera pas une première expérience d'acteur en fait pour Théo Curin, il a déjà fait une apparition dans la série de France 2 Vestiaire. Et il sera d'ailleurs bientôt à l'affiche d'un téléfilm avec Alessandra Sublet, Andy Gang.
Télévision toujours, le focus programme du jour, c'est un documentaire proposé par France 5, on y vient, consacré au temps.
Ouais, quand vous regardez l'heure sur votre smartphone ou sur cette horloge numérique dans le studio, vous avez l'impression qu'il s'agit du temps avec un grand T. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Le temps est fabriqué, c'est ce que nous enseigne ce documentaire scientifique très pédagogique, grand public, Hugues de Meudes, son auteur.
Le temps qui nous sert de référentiel commun, le temps standardisé, est un temps fabriqué, purement fabriqué, et distribué à partir de l'Observatoire de Paris, qui depuis 350 ans en a la responsabilité. Mais évidemment, nous, en tant que citoyens, on ne sait pas forcément qu'il y a encore 150 ans, il y avait dans chaque commune de France un temps différent, un temps local. Nous avons trouvé vraiment très intéressant de revenir à une époque, on a l'impression qu'il y a une accélération du temps, qu'il y a quelque chose qui nous submerge presque, de montrer comment tout cela est finalement une pure construction conventionnelle.
50 minutes de différence entre Strasbourg et Brest, il me semble, à l'époque. Et le documentaire revient sur toutes les ruptures technologiques qui ont permis de maîtriser le temps, de le fabriquer. D'ailleurs, pourquoi vouloir le maîtriser ? Parce que quand on maîtrise le temps, on maîtrise les hommes, répond un historien. Et c'est bien ce qu'on voit dans ce documentaire qui s'attarde sur différentes périodes historiques.
Dès qu'on a pu anticiper les phénomènes observables, dès qu'on a compris qu'on pouvait, par exemple, en ce qui concerne les Égyptiens, anticiper la survenue de la crue du Nil, eh bien, on a pu avoir un contrôle sur les sociétés et maîtriser les sociétés. Et on le voit tout au long de notre histoire, de notre histoire commune. On le voit ensuite avec les cloches des églises qui sonnaient l'heure. On a vu également avec les compagnies ferroviaires au XIXe siècle qui ont fait pression sur les autorités dans chacun des pays pour que soit instauré un temps unique national, un même temps pour tous, un temps commun.
2 ans et demi de travail avec l'aide de scientifiques de l'Observatoire de Paris pour réaliser ce documentaire avec une mise en image très soignée pour emporter vraiment le téléspectateur dans ce voyage du temps. La Fabrique du Temps est à voir ce soir sur France 5 à 20h55. C'est écrit par Hugues de Meudes et réalisé par Herlé Jouon.
Des actualités cinéma et série maintenant, on va commencer avec le cinéma, un personnage mythique de Toy Story qui va avoir droit à son propre film.
Vers l'infini et au-delà !
Buzz l'éclair, le jouet astronaute présent dans les 4 Toy Story va désormais être le personnage principal d'un nouveau Pixar qui sortira le 22 juin 2022. La bande-annonce vient d'être dévoilée. Le film d'animation va retracer la vie de ce ranger de l'espace avant qu'il ne soit devenu un jouet. En revanche, sa voix va changer. En version originale, ce sera désormais Chris Evans, l'acteur de Captain America. Et en version française, Alexandre Gillet qui double aussi Ryan Gosling.
Autre actu cinéma, le film Dune va avoir droit à une suite.
Dune 2, il faudra attendre octobre 2023, la société de production vient de donner son feu vert pour une suite. Pas si étonnant, après le succès mondial du premier, plus de 220 millions de dollars de recettes dans le monde pour l'instant, parce qu'il est toujours en salle. Et en France, Dune a été vu par 2 600 000 spectateurs, pareil, toujours en salle, donc vous pouvez aller le voir. Et puis, on va continuer avec une deuxième actu-série.
Oui, l'actu-série, exactement.
Non, mais c'est pas grave. Toute seule.
Non, mais allons-y. Mais quel est ce générique ?
Dites-moi. Eh bien, c'est celui de la série Succession, un générique très entêtant. La chaîne HBO qui vient d'annoncer avoir commandé une saison 4. La troisième est pourtant toujours en cours de diffusion aux États-Unis et en France sur OCS. Bon, renouvellement sans trop de surprises en vue du succès de la série.
Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter Média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain, Louise, c'est votre succession pour un nouveau journal des médias. Ce sera vous qui vous succédez à vous-même.
À demain.
Dans un instant, sur Europe, notre info média du jour, vous allez tout découvrir sur ceux qui furent les premiers inventeurs des fake news et du bad buzz. Les renseignements généraux, les RG, ces services d'information qui ont pendant des décennies informé les puissants français des moindres faits et gestes de leurs adversaires politiques et même parfois même à l'intérieur de leur propre parti. C'est le sujet d'une série documentaire qui passe dimanche sur la 5. Nous serons avec son réalisateur.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En campagne présidentielle, tous les coups semblent permis ou presque. En tout cas, tous les moyens sont bons pour déstabiliser l'adversaire grâce à des révélations sur son passé ou en faisant courir les plus folles rumeurs du vrai et du faux. Donc, cette manipulation de l'information a longtemps été incarnée par une institution de l'État, les renseignements généraux, les RG comme on les appelle, qui ont été utilisés durant des décennies par les hommes politiques au pouvoir pour récolter le plus d'informations possibles sur leurs adversaires et pour ensuite les faire fuiter dans la presse opportunément. Les fake news et le bad buzz ne sont donc pas une invention de notre époque. Ils et elles étaient bien présents avant l'arrivée d'Internet. Une série documentaire revient sur cette épopée des RG et ses méthodes discutables ce dimanche soir à 21h sur France 5. Bonjour Olivier Tosserre.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de cette série doc Dans l'œil des RG, filmée par Damien Vercamer. D'abord, pourquoi ce titre Dans l'œil des RG ?
Parce que c'est l'organe principal des renseignements généraux, l'œil, il regarde, il surveille.
Voilà, on a l'impression que vous êtes dans l'œil du cyclone, et que vous êtes au milieu de la machine infernale de la lessiveuse.
Un petit peu aussi, oui, tout à fait. Mais...
Parce qu'il y a vraiment beaucoup de témoignages. Première question, à quand remonte la création des renseignements généraux, et à l'époque, c'était dans quel but ?
Alors, les renseignements généraux existent réellement sous ce nom depuis 1937, donc ils ont été créés sous le Front populaire. Le but du jeu des renseignements généraux, c'est un service de renseignement de proximité, c'est-à-dire on veut savoir ce que pensent les Français, tout simplement.
Les Français, et pas un, où c'était pas ciblé comme ce le fut, comme ce l'est désormais, enfin même si l'organisation a été démantelée et arrêtée. Vous avez plusieurs anciens agents des renseignements généraux qui témoignent dans votre doc. Déjà, la chose qui frappe vraiment, on a toujours l'impression que c'était des barbouzes, on les représente dans le canard enchaîné avec des imperméables, un chapeau, une fausse moustache. Comment avez-vous réussi à les faire parler à visage découvert ?
En prenant le temps de les convaincre, justement, de raconter leur histoire, qui n'avait été jamais racontée à la télévision. C'est des gens qui ont un métier très spécial, que personne ne connaît réellement, ce qui a toujours généré beaucoup de rumeurs et beaucoup de fantasmes autour des renseignements généraux. Et donc je leur ai dit, les uns après les autres, si vous assumez ce que vous avez fait, il faut raconter aux gens ce que vous faisiez réellement. Mmh. Et éviter de laisser des fantasmes, des zones d'ombre autour de votre travail. Alors il y en a, des zones d'ombre dans le travail des renseignements généraux, il y a eu pas mal de bavures, mais il y a aussi un travail qui s'explique.
Vous avez essuyé beaucoup de refus, j'imagine, plus de refus que de go.
Oui, tout à fait. En l'occurrence, je me suis aperçu que beaucoup n'assument pas réellement ce qu'ils ont fait et n'ont pas envie de le partager. Mais mon idée de départ, c'était hors de question de faire un documentaire sur les renseignements généraux avec des gens à visage masqué. Parce que ça aurait accéléré encore plus les fantasmes, justement. Donc je voulais absolument avoir des agents du renseignement généraux face caméra, visage découvert.
Alors, c'est assez rare pour être signalé, c'est en plusieurs épisodes. C'est pas chronologique, on commence pas par la création. L'épisode 1 s'intitule « La République des coups tordus », ça porte bien son nom. Et cet épisode revient en grande partie sur la candidature à la présidentielle de Coluche. On était dans les années 80-81. Comment ce qui n'était qu'une plaisanterie est devenu une affaire qui a inquiété au plus haut sommet de l'État, au point de mobiliser les renseignements généraux ? Comment ça s'est passé ?
Bah, tout simplement, au sommet de l'État, on a commencé à être un peu énervé par cette candidature de Coluche qui ridiculisait tout le monde politique et qui concurrençait également le président Giscard d'Estaing qui était en quête de réélection. Et donc, on a décidé de le surveiller, pas tellement pour le surveiller, et ensuite pour le dissuader.
De se présenter.
Donc, d'abord, on essaye de voir, on met par exemple une fourgonnette devant chez lui, avec des gens à l'intérieur, vitreux teintés, et puis on essaye de savoir qui vient le voir, quels sont ses relationnels. Et puis ensuite, des ordres sont donnés par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur de Giscard d'Estaing, qui est de le dissuader et donc de le menacer.
La première phase, c'est d'obtenir le plus d'éléments possible. Et vous avez réussi à faire parler une personne qui était membre des RG de la préfecture de police de Paris dans les années 80. C'est le commissaire Brigitte Henry. Elle vous raconte ce qui s'est passé à visage découvert. Elle était au cœur, elle était dans l'œil justement des RG. On l'écoute.
Les RG doivent à tout prix trouver de quoi ternir l'image de Coluche.
On fait un petit peu son passé. Il a fait l'objet d'une arrestation pour vol quand il était très jeune. Et son passé militaire n'était pas très glorieux, hein, puisque bon, il a été à plusieurs reprises en prison pour indiscipline. L'image qui a été donnée par ces notes RG était une image plutôt défavorable à Coluche.
Ces notes, savamment préparées, vont alimenter plusieurs enquêtes à charge dans les journaux. Les premiers à s'en servir sont les journalistes de l'Express. L'article est très largement inspiré du dossier des Hergé. Les policiers écrivent par exemple « Le 2 janvier 1979, il avait franchi un feu rouge et insulté les gardiens de la paix. » Sous la plume du journaliste de l'Express, cela devient « Il avait, le 2 janvier, grillé un feu rouge et traité d'enculé les deux gardiens qui le verbalisaient. »
Là, on est totalement dans la désinformation.
On inventer
des mots qui ne sont pas dans le dossier.
Exact.
Mais ça, ne me dites pas que c'est de l'info.
Un petit peu. En tout cas, c'est pratiquement recopié.
Oui.
L'article est recopié intégralement de la note des
Hergé. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui n'a pas été recopié a été inventé. Donc c'est encore pire.
Et oui,
on ajoute du mal au mal quand même.
Bien sûr, parce que le but du jeu, c'est salir Coluche.
Voilà. Et le but du jeu, c'est on voit les relais de la presse, le journal Express, grand journal. Parfois, c'est pas à mettre à son crédit. Cet épisode.
À cette époque-là. Il y avait quand même une tradition dans les rédactions, quand on faisait des enquêtes journalistiques, souvent on allait voir les Hergé.
Il y a plein d'autres exemples que vous donnez de souvenirs de papier qui sont les mêmes, une note des Hergé qui devient un article. Vous les avez en tête ou pas du tout ?
Non,
pas vraiment. Il y en a beaucoup. Moi non plus, je ne les ai plus en tête. Je vais lui poser la question, il va s'en souvenir. Et Brigitte Henry, cette commissaire qui était à la préfecture de police de Paris, vous confie également qu'il y avait des dizaines de fonctionnaires mobilisés rien que sur le dossier Coluche. Ensuite, il y a eu aussi des sondages. Et puis, on va passer dans une histoire beaucoup plus proche, la guerre, car c'était une guerre interne au sein de la droite entre le président Chirac et son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. C'est dans votre doc, c'est dans Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans l'œil des Hergé, les Hergé, ce sont les renseignements généraux, épisodes 1 et 2 de ce documentaire dimanche soir. Et puis il y aura un troisième épisode le dimanche 7 novembre dans l'après-midi. Il y a un personnage, Olivier Tesserre, vous en êtes le réalisateur, qui va marquer et qui a marqué l'histoire des Hergé. Un de leurs anciens patrons, Yves Bertrand, vous pouvez le présenter à nos auditeurs.
Yves Bertrand, c'est un hiérarque des renseignements généraux qui a fait toute sa carrière aux renseignements généraux et qui était connu, en tout cas sa force, c'était de savoir ce qui intéressait les politiques. Donc il orientait la production des notes des renseignements généraux pour faire plaisir au pouvoir en place en fait.
On est en 97, Lionel Jospin devient Premier ministre, c'est la première cohabitation avec Jacques Chirac. Il prononce à l'Assemblée nationale un discours contre les Hergé. Il dit « Dans la République, il n'y a pas de place pour une police politique ». Phrase qui ne va pas du tout plaire à Yves Bertrand. Que va faire Yves Bertrand pour déstabiliser l'ancien Premier ministre ?
Alors, c'est Yves Bertrand qui va commencer à chercher dans le passé de Lionel Jospin la période où il a été un militant trotskiste, une période que Lionel Jospin ne voulait pas tellement se rappeler.
Qui cachait carrément, on va le dire.
Qui cachait absolument. Et c'est les renseignements généraux qui déterrent les choses et en parlent au maximum de journalistes qui peuvent croiser pour en faire une affaire, en fait. Et il y a une affaire qui sort sur Jospin, l'ancien trotskiste. Et une affaire qui fonctionne au sens des renseignements généraux, c'est-à-dire qui va blesser Lionel Jospin, parce que Lionel Jospin, plutôt qu'avouer tout de suite et mettre les choses sur la table, va financer pendant un petit moment, ce qui va permettre à la campagne de presse lancée par les renseignements généraux de prendre de l'ampleur.
Ouais, et puis ça c'était authentique, et les Hergé sont également intéressés au passé du père Lionel Jospin. Il y avait une histoire de voilier, ça c'était vrai, c'était faux?
Tout était faux, voilà.
Non, pas tout, parce que le passé chez les Trotsky c'était vrai.
Oui, mais après beaucoup de choses, parce que Lionel Jospin était devenu l'ennemi des renseignements généraux, en tout cas du patron des renseignements généraux, donc il a continué à essayer de chercher des affaires, et il y a énormément de fake news qui ont été écrites dans les notes Hergé sur Lionel Jospin.
Il y avait un véritable cabinet noir contre Lionel Jospin à l'Élysée?
Oui, parce que les renseignements généraux étaient entièrement instrumentalisés par l'Élysée de Jacques Chirac, en fait, et faisaient vraiment le travail. C'était presque devenu une milice chiraquienne, et donc il fallait abattre Lionel Jospin.
Voilà, je souris parce que les membres du prétendu cabinet noir ont toujours déclaré qu'il n'y a jamais eu de cabinet noir.
Ben oui, non, notamment dans le film, on diffuse cette archive de M. De Villepin, qui dit qu'il n'y a jamais de cabinet noir. Tout le monde sait que c'était lui qui qui gérait les choses avec les RG.
On verra lundi matin si vous avez un procès. Autre cible d'Yves Bertrand dans les années 2000, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci, le président en place est Jacques Chirac. Mais cette fois-ci, ce qu'il y a de complètement nouveau, c'est qu'ils sont du même parti. C'est comme s'il y avait un ennemi de l'intérieur. Là, cette fois-ci, quels vont être les angles d'attaque du patron des RG?
Alors là, le patron des RG va essayer de fouiller dans, la, dans les affaires financières de Nicolas Sarkozy et va écrire des notes, toutes fausses d'ailleurs, sur des prétendues malversations de Nicolas Sarkozy. Et à un moment donné, Nicolas Sarkozy va s'en apercevoir. Mmh. Et c'est la fin de c'est le début de la fin.
Il s'était également intéressé, ce que montre votre documentaire, à Cécilia Sarkozy, l'épouse.
Il s'intéresse également à Cécilia Sarkozy et on sait que c'est les renseignements généraux qui diffusaient pas mal de rumeurs sur qui était, enfin, quel était le passé éventuellement trouble de Cécilia Sarkozy qui passait pour une ancienne call girl, ce qui est totalement faux.
On apprend des choses absolument insensées dans votre doc, notamment qu'il y avait aux renseignements généraux quelqu'un, le commandant Alain Prissette, qui vous révèle quelqu'un chargé de recueillir toutes les infos sur la presse People concernant Nicolas Sarkozy. C'est une info sérieuse, ça vous fait sourire, mais
c'est tout à fait sérieux, c'était son boulot, c'était son boulot.
Alors, la campagne de 2007 approche, évidemment, j'accélère le récit, puisque votre documentaire est très, très, très charpenté, très documenté. Cette fois-ci, Nicolas Sarkozy est en lice pour son accession à l'Élysée. La candidate, son adversaire, c'est Ségolène Royal, et tous les moyens sont bons pour le clan Sarkozy, pour cette fois faire du tort à Ségolène Royal. Et grâce au RG, Nicolas Sarkozy va savoir très vite que le couple Royal-Hollande-Badelel, information qui concerne la vie privée de sa principale concurrente, qui va être recueillie par le commandant Prissette, et là, qui cite ses sources, c'est un document.
C'était le côté le chauffeur d'Alain Genestard, le directeur de match, qui me raconte ça, je crois qu'on est en 2006, il me dit, oh, il faut que je te dise, François Hollande a une maîtresse, en l'occurrence Valérie Trierweiler à l'époque. Elle était chef du service politique de Paris Match. Ah bon, alors là... Il me raconte que, alors qu'il conduisait Genestard en voiture, Ségolène Royal appelle Alain Genestard en lui demandant, paraît-il, que Valérie Trierweiler soit écartée du service politique de Match, etc.
Et là, donc, on a la source des renseignements généraux, c'était le chauffeur.
Le chauffeur d'Alain Genestard, le patron de Paris Match, oui.
Lui aussi va être content de voir son identité dévoilée dans votre talk dimanche soir et maintenant en direct sur Europe 1. La presse était manipulable par les RG à l'époque?
Complètement, parce que comment ça fonctionne? Ça fonctionne, vous êtes les renseignements généraux, donc vous êtes censé tout savoir sur tout. Lorsque quelqu'un des renseignements généraux parle à un journaliste, le journaliste pense que ce qu'il lui dit est entièrement vrai et documenté, ce qui est souvent totalement faux.
Et là où c'est complètement fou, c'est qu'après que Nicolas Sarkozy a réussi à faire muter le patron d'ERG qui enquêtait sur lui, lui-même s'est beaucoup servi d'ERG, il a même demandé des enquêtes bien étranges aux renseignements généraux, notamment sur Rachida Dati.
Oui, absolument. À un moment donné, Rachida Dati est enceinte.
Elle est enceinte. Alors qu'elle est garde des Sceaux.
Elle est garde des Sceaux, donc elle est dans son gouvernement, ouais. C'est lui qui l'a nommée, mais elle est enceinte et elle ne veut pas dévoiler le nom du père. Elle ne l'a toujours pas dévoilé d'ailleurs, c'est son droit. Mais ça énerve Nicolas Sarkozy, il voudrait savoir qui c'est, tout simplement, juste pour savoir en fait, parce qu'un président, c'est un président de la République, c'est ça, il veut tout savoir.
Et d'après ce que vous savez, on ne va pas dire les noms ici, est-ce qu'ils ont su qui était le père?
Ils l'ont su.
Quand on regarde votre doc, évidemment, l'image des RG est sacrément entachée. Les renseignements généraux ont été supprimés en 2008. Pour quelles raisons officielles?
L'époque avait changé, en fait. On était un peu sur de l'hyperterrorisme qui commençait à arriver en France. Et un service consacré des ressources à un service comme les renseignements généraux, qui finalement ne faisait plus grand-chose que une machine à rumeurs, en fait, ça commençait à se voir un peu trop, et donc Nicolas Sarkozy a considéré qu'il fallait mieux faire un service de renseignement plus professionnel.
Voilà, et est-ce que ce genre de pratique existe toujours? On a vu plein de rumeurs concernant plein de candidats à l'élection présidentielle.
Il y a beaucoup de rumeurs, mais aujourd'hui, les renseignements généraux ne serviraient plus à grand-chose s'ils existaient encore, en fait. Aujourd'hui, n'importe qui met ce qu'il pense sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas besoin d'avoir des espions qui essaient de savoir ce qui se passe. Et les rumeurs se diffusent aussi comme ça sur les réseaux sociaux.
Les fake news ont déjà leur vecteur. Merci beaucoup Olivier Tesserre. Dans l'heure IDRG, l'épisode 1 et 2, c'est dimanche soir à 21h sur France 5. Et puis l'épisode 3, ça sera le dimanche 7 novembre à 16h25. Également avec Damien Vercamer pour les images, co-réalisateur avec vous. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
S'il y avait l'IRG, ils auraient enregistré cette séquence. Dans un instant, on va parler du prime événement de TF1 samedi soir, la Star Academy. On s'était dit rendez-vous dans 20 ans. Nous serons avec Pascal Nègre, l'ancien directeur d'Universal, ancien membre du jury, et l'animatrice Karima Charny. Pourquoi ? Car elle était candidate de la saison 4. Ils seront avec nous. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Pascal Nègre.
Bonjour.
Vous avez plusieurs casquettes, on peut vous entendre sur RFM les samedis et dimanches en 18 et 19h, vous recevez des stars de la musique que vous connaissez bien.
Et du cinéma, enfin un peu tout le monde.
Voilà, car vous êtes patron du label 6 et 7, ça existe toujours. Après avoir été le patron d'Universal de 98 à 2016 pendant 21 ans, c'est presque un exploit. Et c'est à ce titre que vous avez participé à une émission mythique de TF1, la Star Academy, qui a tenu 9 saisons. Et on vous retrouve dans une série de 3 émissions souvenirs. Star Academy, on s'était dit rendez-vous dans 20 ans. Ce sera samedi à 21h sur TF1. Karima Charny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueuse sur LCI après avoir fait beaucoup de radio, notamment dans Love in Fun, mais pas seulement.
Europe 1 aussi.
Voilà, et vous êtes fait connaître. Justement, dans la Star Academy, vous étiez candidate dans la saison 4, aux côtés de qui d'ailleurs ?
De Grégory Lemarchal, de Sofiane, de Mathieu, d'Oda. Voilà, toute la belle équipe.
Pascal Nègre et Karima, vous n'étiez pas ensemble dans la même saison.
C'était mon président de maison de disques.
Ouais, il faut expliquer qu'en fait, Universal, j'avais signé le fait que l'ensemble des candidats et des gagnants soient en production chez Universal. Et donc, évidemment, le gagnant, il avait une garantie de sortir un album avec une grosse avance.
Ouais.
Et les autres, ils n'avaient pas d'avance, mais on pouvait faire des disques ou pas.
Oui.
Donc voilà quoi. Donc ça a été vraiment important parce que, effectivement, la partie disque a été énorme, quoi. Énorme.
Et même nous, en tant que candidats, dans l'émission, on sortait des albums. C'était des albums signés chez Universal.
Exactement, en fait. De reprises, etc. Mm.
Et vous aviez quel rôle dans l'émission? Parce que votre parole engageait vraiment. C'est pas comme dire A ou B. Vous-même, ensuite, il y avait une décision presque industrielle qui suivait.
Alors, moi, je suis arrivé tard, en fait, à l'antenne. Mm. C'était la demande de TF1. Et donc, moi, je suis arrivé sur la saison 5.
Mm.
Donc, Magali va. Voilà, et j'ai fait 5 et 6. Et en fait, ils pensaient que c'était bien d'avoir un pro vraiment à l'antenne. Et donc, ils m'ont forcé, je vais être franc, moi, j'étais pas chaud.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà, et puis en même temps, j'avais pas le choix parce qu'on était en train de renégocier le deal pour continuer à avoir la suite sur Universal. Donc voilà, j'ai payé de ma personne.
En revanche, vous étiez là sur les castings. Je me souviens très très bien de vous au casting dans la tour TF1.
Ah ouais, attends, j'ai envie de savoir, il était comment Pascal Nègre au casting?
Adorable, parce que nous on était. Gentil. Oui, on était. C'était pas lui le pire. Hein. C'était Alexia. T'aime, Alexia. C'était la plus compliquée, mais nous on était des petits gamins, on avait 18 ans en moyenne. Non. On arrivait de province et là on avait tous ces professionnels en face de nous, on faisait pas les beaux. Hein.
Ouais. Et on les faisait chanter, on les faisait danser, puis on essayait de voir un peu leur personnalité. Mmh. Et puis après, on se réunissait, puis on décidait de qui allait rentrer ou pas.
Il y a la Starac, il y avait ce qui était à l'antenne, il y a toutes ces années-là qui sont résumées. Il y a une émission qui a été tournée en passant des extraits, c'est pas facile à résumer. Heureusement, il y a un extrait de la bande-annonce.
Il y a 20 ans, la Star Academy ouvrait ses portes pour une aventure musicale extraordinaire.
8 saisons qui ont accompagné votre enfance, votre vie, mais aussi la nôtre.
C'est un bonheur.
Ces 4 mois qui ont changé nos destins.
Bientôt, et pour la première fois, les anciens élèves seront tous réunis sur scène pour un show exceptionnel.
Musique !
Il y a un lien qui sera là à tout jamais.
Mario, c'est toi ?
Revivons ensemble tous les plus beaux moments.
Évidemment. Là, je revois la petite Jem d'il y a 20 ans.
Très émouvant.
Oh.
Il y a eu 20 ans, quoi. Beaucoup d'étapes aussi.
Star Academy, on s'était dit rendez-vous dans 20 ans, à partir du samedi 30 octobre sur TF1.
Alors 20 ans, c'est pour la première, vous étiez à la saison 4.
Oui, 17 ans, s'il vous plaît.
Ouais, Pascal, vous étiez à la saison d'après, mais quand même, quel effet ça fait de se revoir, j'allais dire, tout jeune?
Bon, moi, de toute façon, j'ai toujours fait vieux, donc ça me reste pas.
Non, mais je suis content d'avoir vieilli.
Oui, alors c'est ça qui est drôle. Ouais. C'est qu'il y en a certains qui étaient ravis de dire « Oh, je suis vachement mieux aujourd'hui qu'à l'époque. »
Ah ouais, on s'est vu comme ça, on s'est regardé.
Alors, on ne donnera pas les noms, mais il y a des gagnants, des perdants. Hein.
Ah oui. Je crois que je fais partie des gagnantes pour le coup. J'ai une tête d'hamster, vous le verrez.
casting assez impressionnant dans les gagnants. Il y a Jennifer la saison 1, Nolwenn Leroy pour la saison 2 qui était notre invitée hier, Elodie Frégé, Magali Vaillé, Cyril Sinelou, Mossiman. Parmi les profs, les directeurs, il y a Alexia évidemment, Armand Altaï, Kamel Wally, Mathieu Gonnet, Oscar Sisto, Philippe Lelièvre, Nathalie André, Pascal Nègre. Le Huffington Post assure que la Starac a complètement bouleversé le paysage télévisuel français, et je dirais aussi le paysage musical. Il y a un avant, un après.
Alors, clairement, ça a été un phénomène. Hein. Il ne faut pas oublier, c'était des millions de disques qui se vendaient en quelques semaines. C'est le retour de la chanson. C'est-à-dire qu'on oublie, c'est que Starac, ça a remis dans la tête de toute une nouvelle génération plein de standards.
Mmh. Parce Béco, que on en parlait tout à l'heure, l'Orange.
Béco, l'Orange, mais c'est Berger, c'est Paul Naref, c'est Palavoine. Donc tout à coup, il y a une nouvelle génération qui s'est mise à redécouvrir les grands de la chanson française qui étaient interprétés. Et d'ailleurs, ça a eu un impact assez rigolo musicalement. C'est qu'au même moment, il y avait le démarrage de l'explosion du rap.
Ouais.
Et le fait que la nouvelle génération écoute beaucoup de chansons, ça a favorisé l'émergence du R&B. C'est quand même très très marrant qu'était le mélange entre de la chanson et du rap.
Totalement.
Et donc c'est assez marrant. Ça c'est vrai. Deuxièmement, il faut souligner un truc dont on parle peu, c'est que ça a généré une nouvelle génération dans la télé, de producteurs de télé. Si aujourd'hui vous regardez le PAF, toutes les émissions de variété ou beaucoup d'émissions de flux sont dirigées, produites par des gens qui démarraient à l'époque.
Des enfants de la Starac.
Des enfants. Bah,
Mathieu Vergne,
Ara Prigian. Oui. Ara, il s'occupait du flux à TF1.
Et bon, c'est maintenant c'est le grand patron du programme de TF1.
Voilà. Stéphane Courby, qui, quand même, avec ça, a explosé et est devenu. Maintenant,
La numéro 1 Mathieu mondiale Verne, de la télévision indépendante.
Mathieu avec était Banijay. Sur le Prime, et c'est lui qui produit celui-ci aussi. Ouais.
Et Alexia, qui était la directrice de la Starac, et qui maintenant produit avec sa société ALP, notamment l'émission France. Elle est devenue la nouvelle patronne d'Émis France.
Koh-Lanta.
Les débuts ont été difficiles.
Alors oui,
les artistes se pinçaient le nez pour venir chez vous.
Alors, deux choses. Un, les débuts d'audience ont été très difficiles.
Ouais.
Et je peux vous dire que ça se posait la question s'ils n'allaient pas arrêter au bout d'un mois et demi. Hein, et passer en deuxième partie de soirée. Et puis, ça a décollé. Et puis, ça est devenu... Ah ouais, c'est devenu un truc de dingue. Hein.
Qu'est-ce qui vous a décidé à participer à l'émission Carina Charny? Vous faisiez quoi à l'époque? Vous aviez un travail? Vous étiez étudiante?
J'étais étudiante, j'étais en BTS audiovisuel. Et en fait, le hasard de la vie, les coïncidences, un soir, j'étais dans un karaoké et on m'a demandé si je voulais faire la Starac. J'ai cru que c'était une blague. J'ai gardé le numéro de téléphone de la jeune femme, que j'appelle Valérie d'ailleurs, je me souviens très bien de son nom, on se voit toujours. Et j'ai appelé, pour voir si c'était une blague, quoi. Et là, j'ai entendu un démol bonjour, j'ai raccroché, et puis j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai rappelé.
Mais vous ne vouliez pas être chanteuse?
Du tout, j'étais parce en études audiovisuelles.
Il y a une grosse différence, il y a une chose dont on n'a pas parlé encore, c'est que c'était à la fois une émission de musique, comme The Voice, mais une émission de télé-réalité.
Très important. C'est-à-dire que c'était d'abord au départ, on peut le dire...
C'est une école, hein.
C'était au départ une vision d'une télé-réalité, sauf que c'était dans une école.
Vous savez ce que c'est devenu? On marque une pause, on le dit juste après ça. Pascal Nègre et Karima Charny, on parle de la Starac. On s'était donné rendez-vous dans 20 ans. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe.
Ils sont 16 à vouloir devenir stars.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média.
Énorme sortie, notre réalisateur Jérémy Hébert, que vous connaissez bien, Karima
Charny.
Oui,
c'est mon ancien réalisateur à Europe, on a passé plein de bons moments ensemble, je t'embrasse. Je l'ai traumatisé aussi.
Ouais, un mauvais moment, on veut pas savoir. Mauvais moment passé, les audiences, vous le disiez, Pascal Nègre, quand la Starac se lance, parce que c'était une hebdo et une quotidienne, il y avait un feuilleton quotidien, ça marchait pas du tout, des audiences sinistres. Et comment le prend TF1, la direction de TF1, Lelay Moujotte?
Mal, sauf que Lelay a un raisonnement, il dit attention, la semaine prochaine, il y a du rugby sur France 2, donc on va mécaniquement monter. Donc on tient.
Ouais.
Et effectivement, l'audience est montée, c'est montée. Et il faut la finale.
C'était 12-13 millions la finale de la Starac.
Pas loin de 14 millions. C'est-à-dire qu'il y avait plus de gens pour savoir si Jennifer ou Mario avaient gagné que à 20h, trois mois après, pour savoir qui était au deuxième tour des élections présidentielles. Et c'était d'ailleurs la fois où Le Pen était arrivé au deuxième tour. C'était un truc de fou. C'était un phénomène.
Ça devient un phénomène. Au départ, les artistes se pincent le nez et refusent d'aller à la Starac. À la suite de s'inverse. Saison 5, Madonna, Johnny Hallyday, Alanis Morissette, Stevie Wonder. Beau casting.
Oui, il y a eu tout le monde.
Tout le monde est venu.
Alors maintenant, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Le premier qui y va, c'est Pagny.
C'est Pagny.
Ouais.
Mais c'est intéressant parce que c'est le premier à aller sur The Voice. Mmh. Donc Florence, c'est le premier, c'est le parrain de la saison, il y va. Et il n'y en a que quelques-uns qui vont venir. Marc Lavoine, Faudel, Khaled, Julien Clerc. Mais là, quelques-uns qui viendront sur la saison 1. Et après, la machine va s'emballer. Et c'est vrai qu'il y avait des saisons, enfin, il y avait des soirées absolument dingues. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est plus possible. Parce qu'il faut savoir que la Starac, c'est une production de télé qui était d'abord gigantesque. Et aujourd'hui, c'est impossible d'avoir tous ces artistes.
Attendez juste un mot. C'était vous qui payiez les artistes ou est-ce que ça faisait partie du budget promo, du label de l'artiste en question ?
Non, c'était les maisons de disques qui faisaient venir leurs artistes. Mais il faut savoir que quand vous passiez dans la Starac, la semaine d'après, vous cartonniez dans les
bah alors, donc ça coûtait rien à la chaîne.
Bah, ça coûtait rien à la chaîne, mais ça coûtait aux maisons de disques. Mais simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existera plus. Plus jamais Madonna viendra chanter ou Maria Carré. Mais oui, parce que ce qui marchait en plus, c'était pas le fait que la personne, l'artiste, la star chante. Sa chanson, c'est qu'elle chante avec un gamin qui, en anglais, chantait en général, d'abord parlait pas anglais et chantait plutôt plus ou moins mal d'ailleurs. Mais c'était ça qui faisait que ça cartonnait.
C'était la magie.
Ouais, c'était la magie.
Et Nathalie André le raconte, le seul qui a pas voulu partager une chanson, c'était Justin Timberlake. C'est pour ça qu'il est jamais venu sur le Prime. Ouais. Alors après, toutes les autres stars sont venues.
Voilà, Justin, tu nous écoutes.
Gros bisous.
Document. Karima Charny, c'était il y a 17 ans, la saison 4. Vous serez dans le prochain Prime. Oui. On va entendre votre interprétation du Café des Délices. Quelques mesures de Karima Charny.
Des souvenirs se voilent, tu vois passer le tram, et la blancheur des voiles des femmes, tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'elle tenait dans ses mains au Café des Délices.
Mesdames, messieurs, il faut nous regarder sur Europe1.fr juste pour voir la tête de Karima.
Mais, tu chantes plutôt bien, hein.
Ouais.
Non, franchement.
Ouais, tout est dans le plutôt.
Ouais, plutôt.
Mais je vous assure, si vous regardez LCI, je fais de super chroniques.
Ouais, mais là, on va en parler d'LCI. Quel effet ça vous fait quand vous réentendez ça ?
Oh, j'ai énormément d'affection pour la petite que j'étais à l'époque. Ouais. Vraiment. Qui s'est retrouvée dans un monde qui n'était pas le sien, qui la faisait rêver, qui avait envie d'y travailler. Mais en même temps, voilà, on était plongés dans un monde. On savait très bien que derrière la caméra, il y avait des millions de téléspectateurs. Il y avait nos proches aussi. Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte en tant que candidat, ce qu'on a vécu. Ce phénomène est totalement dingue. On a appris en 4 mois ce que des gens normaux et des artistes font en 20 ans. On a eu une notoriété spontanée, on a eu du travail. Enfin, on dansait, on chantait, on faisait du sport. Enfin, c'était incroyable.
Ça, c'est vachement important.
Oui.
C'est le fait que c'était vraiment une école.
Oui.
C'est-à-dire que je peux vous le dire, entre les gens, quand ils sont rentrés, quand ils en sont sortis, ils avaient appris plein de choses.
J'étais différente.
Vous parlez de la notoriété, justement, je vais en parler. Il y a des séquences cultes qu'on va voir, c'est le prof d'improvisation théâtrale Philippe Lelièvre. Il garde un souvenir mitigé de ses années Starac, parce que, pas dans le château, les cours avec les élèves, il adorait, mais c'est la suite. Les années qu'on suivit, comme il est comédien, ont été difficiles pour lui pour décrocher des rôles. Mmh. C'est ce qu'il nous avait confié dans Culture Média, c'était le 21 septembre dernier, Philippe Lelièvre.
J'ai été encensé par Rock'n'Folk et toute cette presse-là, et quand j'ai fait la Starac, ça s'est arrêté du jour au lendemain. C'est comme si j'avais pactisé avec le diable, alors que je ne faisais que faire une partie de mon métier, c'est-à-dire que j'enseigne depuis des années, j'adore ça. Quand il y a eu la Starac, après, on m'a un peu tourné le dos, je dois le dire.
Ouais.
Ouais, mais c'était un peu douloureux, parce que ça n'avait rien à voir avec le talent, ça avait juste à voir avec ce que les gens avaient envie de me faire faire et envie de voir de moi, parce que les gens ne me connaissaient pas. Mmh. Donc ça a été un moment difficile.
Est-ce que la sortie a été difficile pour vous, Karima Charny?
Non,
pas du tout. Pas
non,
du
j'ai
tout.
De la chance.
Vous hochiez la tête, Pascal Maigre.
Mais je peux comprendre ce que dit Philippe Lelièvre, ouais. Franchement, attention.
Mais oui, parce que tout à coup, c'était un tel phénomène. Et puis, oubliez pas, à l'époque, c'était TF1 qui faisait 40% de parts de marché. Donc, tout ce qui venait de TF1,
c'était le diable.
C'était pour beaucoup de gens, c'est le diable. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les gagnants, sur les gens qui en sortaient? Or, si on regarde 20 ans après, c'est ça qui est intéressant.
En fait, c'était trop populaire.
Qui sont restés.
C'était trop populaire. Et maintenant, c'est devenu un objet de pop culture.
C'est ça.
Et puis, il y avait aussi les histoires d'amour.
Ah oui, oui, oui.
Bah oui, mais faites pas cette tête, il n'y a pas d'histoire d'amour dans The Voice maintenant, il n'y a plus d'histoire d'amour, à part quand c'est ciblé comme tel, l'amour est dans le pré, il n'y a plus l'émission de la vie privée dans la vie publique.
Mais parce que c'était également une télé-réalité, on était filmé 22h sur 24, donc à un moment donné, il y a les engueulades, il y a les histoires d'amour, il y a les cours, il y a tout.
C'était d'ailleurs la difficulté, c'est-à-dire que d'un côté, la prod cherchait à faire une télé-réalité dont cherchait des personnages.
Bah Jean-Pascal.
Jean-Pascal.
Et alors, je dis un mot, c'est le personnage qu'on voit le plus dans l'émission 1, c'est celui qui chante le plus mal. Mais c'est un personnage.
On
on
Non, mais c'est là où on voit que c'est la télé-réalité.
Et c'était là où moi, je devais intervenir en disant attention, je cherche des chanteurs. Et je peux vous dire que Jennifer, elle a failli pas y être. Bon, voilà, parce qu'il considérait qu'en termes de personnage de télé-réalité, elle était trop petite. Alors que c'est elle qui a fait toutes les histoires de Jean-Pascal.
Stop, si Patrick Lelay était encore là, je salue sa mémoire. Il dirait stop, on marque une pause, il faut s'arrêter. Merci beaucoup, Pascal Nègre. Merci, Karima Charmi.
Merci à vous.
Charmi, si vous trouvez que ça a été trop court, eh ben vous allez les voir dans Star Academy. On s'était dit rendez-vous dans 20 ans. Ce sera samedi à 21h sur TF1. Merci d'avoir été avec nous
Merci en direct avec
cette belle énergie. Et on vous retrouve sur LCI, je ne l'ai pas dit, je voulais en parler.
Dès demain matin,
on en parlera une autre fois. Culture Média continue. Il y a le rappel des titres de 10h. Il y aura les télescopages de Bruno Donnet. Il y aura Christelle Chollet pour un livre où elle démonte à sa façon, elle décortique les tubes et c'est hilarant. Et puis on va parler de musique classique avec Laure d'Autriche. Et puis on va faire des imitations avec Marc-Antoine Lebray. Quel programme ? Je reprends mon souffle. À tout de suite.